Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau Au fil des pages, où j'ai le grand plaisir de recevoir Christian Saint-Étienne qui vient de faire paraître un nouvel ouvrage, La France est-elle en faillite ? Un ouvrage qui a fait particulièrement du bruit dans à la fois la classe économique et politique. Cet ouvrage est paru chez Bourin, 15 propositions pour en sortir. Alors, Christian Saint-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir sur l'antenne de l'Institut de France.
Merci.
Je rappelle brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous êtes professeur des universités, vous enseignez à Tours et à Dauphine, vous êtes membre du Conseil d'analyse économique, le CAE, vous êtes aussi membre du Cercle des économistes, vous êtes président de l'Institut de France Stratégie et bien entendu, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages pour lesquels vous avez obtenu de nombreux prix, dont à deux reprises, si mes souvenirs sont bons, le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière.
Exactement.
C'était avec quel titre à l'époque ?
Il y en a un qui était Le combat de la France.
Ah oui, tout à fait. Vous produisez en gros un ouvrage par an.
Oui, depuis 20 ans à peu près.
Voilà, donc effectivement. En tout cas, vous avez été distingué à plusieurs reprises et puis vous avez contribué à deux rapports.
J'ai obtenu deux prix de l'Académie ici.
Et vous avez obtenu deux prix de l'Académie, donc alors effectivement, et sur quel sujet
C'était sur des livres, donc le premier c'était sur l'exception française.
D'accord.
Et j'ai également eu un prix de l'Académie sur un livre qui s'appelait « La volonté d'être France ».
D'accord, toujours très volontariste.
Voilà.
D'accord, donc, ça ne nous surprend pas. Hein. Bien. Et puis, bien sûr, vous avez été l'auteur de nombreux rapports, dont un rapport sur la réforme fiscale souhaitée en France, croissance équitable et concurrence fiscale en 2005, et un autre rapport sur la dynamisation du tissu productif, une stratégie PME pour la France en 2006. Bien, donc ça veut dire que vous êtes un des économistes les plus écoutés, les plus lus en France. Et alors, qu'est-ce qui vous a pris de sortir un ouvrage ? Vous avez quand même mis un point d'interrogation. La France est-elle en faillite ? Alors, elle est en faillite, la France, ou pas ?
Ben écoutez, elle n'est pas en faillite absolue pour l'instant, puisqu'on arrive encore à honorer nos dettes, mais elle est d'une certaine façon déjà en faillite relative depuis, disons, le début des années 90, depuis une grosse quinzaine d'années. Pourquoi ? Parce que nous avons depuis 91-92 un taux de croissance en moyenne de 1,8 par an, et qui est très inférieur à notre potentiel et très inférieur à ce que les Français souhaitent, d'où l'enjeu du fameux point de croissance qui nous manque. C'est vrai que la France, compte tenu de ses charges, compte tenu de sa volonté d'avoir un niveau de protection sociale très élevé, doit avoir une croissance à 3% par an, ou simplement supporter les charges qu'elle a. Mais quand la France supporte près de 20 ans de croissance inférieure à 2% l'an en moyenne, les charges qu'elle s'assigne à elle-même sont insupportables. Donc, il en résulte que nous avons malheureusement le record de la dépense publique, par exemple au sein de la zone euro, avec un écart tout à fait considérable, puisque le poids de la dépense publique en France est 53 points du produit intérieur brut, alors que la moyenne des autres membres de la zone euro, c'est 45 points de PIB. Donc il y a 8 points de PIB d'écart, ce qui fait plus de 150 milliards d'euros. Et c'est extrêmement problématique pour l'avenir, puisque ça nous conduit à... Quand on regarde la façon dont ces charges sont financées, cet excès de charges, ça nous conduit à avoir des prélèvements obligatoires très supérieurs à ceux de nos compétiteurs. Donc, ça nous conduit à avoir des entreprises qui, pour avoir les mêmes prix de vente sur le même marché européen que les entreprises allemandes, italiennes, espagnoles et autres, sont obligées d'avoir une productivité très élevée. Mais le résultat, pour conclure, c'est que le PIB par heure travaillée en France est au top mondial. C'est la contrepartie du poids des charges, parce que si on a des emplois à faible productivité, on ne peut pas supporter le coût de ces prélèvements. Mais la contrepartie d'une telle exigence de productivité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler ou qui sont rejetés du marché du travail. Et donc, on a un taux d'activité de la population qui est extrêmement faible, puisque sur les 62 millions de Français résidant en métropole, il y a que 41% qui travaillent, alors que dans les pays comparables, Allemagne, Royaume-Uni, on est au-dessus de 45%. Et aux États-Unis ou au Japon, on est au-dessus de 50%, ce qui fait donc 10 points. Si nous avions le 5 points de plus de taux d'activité global tel que je viens de le définir, ça nous donnerait 3 millions d'emplois de plus, ce qui ferait disparaître le chômage ou en tout cas réduirait le chômage à moins d'un million de personnes et permettrait surtout d'employer les seniors, ce qui éviterait qu'on les mette en pré-retraite, ainsi de suite. Donc, ça qui réglerait d'ailleurs en partie le problème du financement de la protection sociale et qui favoriserait l'allongement de la durée du travail. Donc, tout est lié.
Donc, c'est ça, tout est lié. Il faut donc revenir au bon sens des choses et reprendre le problème par le bon côté.
Voilà.
Donc, bien évidemment, je crois entendre, mais vous allez me confirmer que les 35 heures, ce n'est pas forcément votre tasse de thé.
Il y a eu trois grandes erreurs commises depuis 25 ans en France. La première très grande erreur, ça a été de passer l'âge de départ à la retraite à 60 ans en 1982, alors qu'on savait déjà à ce moment-là qu'il y aurait un choc démographique extrêmement violent à partir de 2005 avec l'arrivée des baby-boomers à la retraite. Donc c'était une erreur stratégique considérable et une erreur politique monstrueuse, une vraie faute politique majeure, c'est que ça a été un coup de poignard dans le dos du pays. La deuxième erreur très grave a été l'impôt sur la fortune qui a fait fuir simplement depuis 1996-97 quand il y a eu les fameuses réformes de l'impôt sur la fortune, ça a fait fuir plus de 200 milliards d'euros de capital productif. Et donc, la troisième grande erreur, c'est effectivement celle que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire les 35 heures qui ont encore plus exigé de productivité des derniers travailleurs qu'on continue d'employer, qui ont la capacité d'avoir un niveau de productivité aussi élevé que ce qui est nécessaire pour supporter les charges du pays. Donc, parfois, c'est vrai que j'utilise des images pour que les gens comprennent bien, mais c'est une vraie course de rats. Les 25 millions de Français qui travaillent en métropole sont dans une sorte de machine qui accélère de plus en plus, et ceux qui ne sont pas capables de courir assez vite dans cette machine sont éjectés. Et donc c'est un système extrêmement brutal. Donc on prend des mesures qui sont censées être favorables à la population, comme la retraite à 60 ans et les 35 heures, et on finit par avoir une exigence de productivité qui devient insupportable pour tout le monde. Donc ça montre, non seulement ce sont des erreurs stratégiques, des fautes politiques, mais ça montre une incompréhension totale du fonctionnement du système économique et social moderne.
Alors, ce que vous dites est de façon très claire et très forte. Certains reprochent aux économistes, donc vos pairs, leur long silence et de ne pas avoir suffisamment fait comprendre, notamment un ouvrage de Declauzet qui est paru récemment et dans lequel il tire à boulet rouge sur les économistes. Est-ce que vous croyez que cette, l'absence de pédagogie, l'ignorance économique, on va dire, du grand public, est-ce que les économistes n'y seraient pas pour quelque chose ?
En 82, quand il y a eu l'âge de départ à la retraite à ramener de 65 à 60 ans, il y a eu quelques personnes pour s'y opposer et indiquer que c'était une erreur, mais relativement peu, effectivement. Et de même, quand il y a eu le passage aux 35 heures, j'ai fait partie avec Michel Godet et deux ou trois autres parmi les quelques économistes qui ont dit que c'était une erreur monstrueuse. Donc ça, c'était en 97-98. Il faut savoir que depuis 2005, mais donc 7 ans après que la mesure ait été mise en œuvre, les premiers rapports du Conseil d'analyse économique sur les 35 heures ont été extrêmement sévères avec cette mesure. Et donc aujourd'hui, si vous interrogiez la profession des économistes, les deux tiers considèrent au minimum que ça a été une erreur considérable. Mais effectivement, il y en a trop peu qui se sont exprimés en 97-98. Ceci étant, je voudrais aller jusqu'au bout, puisqu'on critique les économistes, à juste titre dans ce cas-là, même si moi j'ai fait partie des quelques économistes qui ont dénoncé les 35 heures. Mais enfin, rappelons-nous qu'il y a 2 millions de chefs d'entreprise en France, et que s'ils n'avaient pas voulu des 35 heures, ils seraient descendus à 2 millions dans la rue en 97-98. Je peux vous garantir que les 35 heures ne se seraient pas faites comme elles se sont faites. Donc tout le monde doit regarder devant sa porte et balayer en même temps devant sa porte. Je me souviens très bien quand Décembre 97, janvier 98, je faisais des interventions devant des chefs d'entreprise qui disaient c'est scandaleux. Je leur disais, mais souvenez-vous de la manifestation de 1984 sur l'école libre. Le gouvernement, il y avait 1 million de gens dans la rue, le gouvernement a arrêté la mesure. Si vous descendez à 2 millions contre les 35 heures, je peux vous garantir que le gouvernement arrête la mesure. Et les chefs d'entreprise n'ont pas bougé. Donc, en France, des vrais professionnels de l'économie, il y en a une centaine. Donc peut-être que la centaine d'économistes n'a pas tiré suffisamment la sonnette d'alarme, mais on peut regretter que les chefs d'entreprise n'aient pas bougé à ce moment-là.
D'accord. Bien, alors le constat est sévère. La France n'est toujours pas en faillite, mais elle court un risque absolument évident. Alors, on peut peut-être déjà commencer à dépasser le constat. Que faut-il faire? Quels sont les trois points clés, les trois orientations clés sur lesquelles vous pensez qu'on doit d'urgence s'atteler? Et est-ce qu'on n'y est pas déjà engagé?
Alors, il y a clairement
Il y a deux questions.
Hein. Voilà. Si on commence par la deuxième, il y a déjà une vraie rupture qui est engagée par le nouveau président. Mais de mon point de vue, elle va dans la bonne direction, donc enfin, après 15 ans de maladresse, et si on remonte à la décision funeste de 1982, ça fait plus d'un quart de siècle qu'on dérive stupidement, mais on peut s'interroger sur le fait de savoir si, malgré tout... Alors, ce qui est nouveau, c'est que de la part du couple exécutif, on a un diagnostic qui est correctement posé. C'est le Premier ministre Fillon qui a dit en septembre 2007 « l'État est en faillite » et c'est le président Sarkozy qui a dit en décembre 2007 « il y a un excès de dépenses publiques de 150 milliards d'euros ». Donc, pour la première fois, l'exécutif a bien posé le constat. Donc, c'est déjà un progrès
tout
considérable.
Tout à fait.
À partir de là, est-ce qu'ils ont pris les mesures suffisantes? Alors, je pense qu'il faudrait organiser les mesures selon trois grands chapitres. Reconstruire une politique de l'offre. Ensuite...
Alors ça veut dire quoi, reconstruire une politique de l'offre?
J'y viens dans une seconde, mais reconstruire une politique de l'offre, reprendre en main les finances publiques, parce qu'on ne peut pas continuer avec un niveau de déficit comme celui que nous avons, et puis faire une politique beaucoup plus forte en faveur des investissements pour le futur. Alors sur le premier chapitre, sur la politique de l'offre, ce que l'on a bien montré dans les travaux du Conseil d'analyse économique, et notamment dans un rapport que j'avais fait en 2006 avec d'autres auteurs, c'est qu'il nous manque 10 000 grosses entreprises, grosses PME en France. Si vous prenez la tranche de 500 à 2 000 employés, l'Allemagne a deux fois plus de grosses PME que nous. Or, ce sont les grosses PME en croissance qui créent l'emploi, qui font l'effort de recherche et d'innovation. Et donc, c'est extraordinairement dommageable pour nous que nous n'y disposions pas d'entreprises de taille équivalente. Donc, la politique à mettre en œuvre pour développer le secteur productif en général et les grosses PME en particulier, c'est d'abord ce qu'on a dit, bien sûr, d'accentuer l'effort de recherche et développement, mais c'est de faire une politique très déterminée sur le taux d'IS. Je suis favorable et je pousse depuis 3 ans pour qu'on institue une tranche d'IS à 18% sur le premier million d'euros de bénéfices mis en réserve, ce qui de facto conduirait 99% des entreprises françaises à être un taux d'IS à 18%, ce qui est d'ailleurs dans la moyenne européenne. Bon. Donc ça, c'est le point clé, l'IS et l'effort de recherche et développement. Et puis, il faut s'interroger sur le statut du chef d'entreprise. On veut toujours faire une politique pro-entreprise en France et anti-entrepreneur. Bon, on n'arrivera pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'un entrepreneur en dehors des grands groupes? Ce sont des gens qui prennent d'énormes risques pour développer leur société. Mais quand ils l'ont développé, ils veulent en avoir le fruit. Or, l'impôt sur la fortune, on dit qu'il ne frappe pas le chef d'entreprise parce que pendant qu'il est chef d'entreprise, il bénéficie de la disposition de l'outil de travail qui lui évite de payer l'ISF. Mais d'abord, cette disposition est très complexe et surtout, le chef d'entreprise prépare l'après période où il ne bénéficiera plus de cette disposition de l'outil de travail. Et donc, une grande partie des décisions que prend un chef d'entreprise dans une entreprise moyenne sont faites pour éviter de payer cet impôt complètement stupide. C'est l'impôt le plus CON de l'histoire fiscale de la planète, hein, puisque cet impôt censé rapporter 4 milliards d'euros a fait fuir 200 milliards de capital. Et si ces capitaux avaient été investis en France, nous aurions probablement des recettes fiscales dérivées de ces capitaux investis dans les PME françaises qui seraient 10 ou 15 milliards d'euros. Donc en réalité, l'ISF ne rapporte pas 4 milliards. S'il fait fuir entre 8 et 15 milliards d'euros, 8 à 15 de perte de recettes, moins 4 de recettes, ça veut dire que le coût de cet impôt, il est au minimum de 4 milliards d'euros et peut-être de 10 milliards d'euros. Donc c'est l'impôt le plus stupide qu'on ait jamais imaginé.
Mais qu'est-ce qui fait alors que ça ne soit pas compris et que ça ne soit pas suivi des faits? Parce que ce constat-là, il y a quelque temps quand même qu'il est fait.
Ben, je pense
la résistance à la société, c'est quoi? C'est...
Ben, d'abord, je pense qu'il n'est pas fait aussi clairement que ce que je viens de dire.
D'accord.
Et que je pense que si Canal Academy et d'autres font des efforts pour faire parler des gens comme moi, ça donne l'occasion aux gens d'entendre ce type d'analyse. Parce que
c'est le but de la manœuvre.
Même Sarkozy ou Fillon ou d'autres ne parlent pas suffisamment clairement sur les questions que je viens d'évoquer à l'instant. Cette idée clé qu'on veut faire une politique entreprise mais qu'on continue de faire une politique anti-entrepreneur, c'est une idée qui passe pas facilement. Alors néanmoins, il y a une bonne disposition qui a été prise récemment sur l'ISF qui conduit à laisser jusqu'à 50 000 euros la possibilité d'investir dans les PME. Mais malgré tout, l'ISF reste un impôt nocif. Moi, personnellement, pour faire simple, je serais favorable à la suppression simultanée de l'ISF et du bouclier fiscal, et ce qui simplifierait massivement le fonctionnement du système fiscal avec mise en place d'un impôt minimum à 15% sur tous les revenus. Et donc, vous réglez tous les problèmes d'un coup et le système fiscal français devient extrêmement simple.
D'accord. Mais donc, vous êtes pour une grande simplification du système fiscal et un taux d'imposition qui soit, on va dire, dans la moyenne.
Voilà, qui soit dans la moyenne européenne. Il faut revenir dans la moyenne européenne.
Pour être compétitif, etc. Mais vous ne pensez pas aussi que les chefs d'entreprise, on déborde peut-être un peu du sujet, mais c'est intéressant de recueillir votre avis là-dessus, sont un petit peu déboussolés pour une raison essentielle, c'est que le champ de leur responsabilité est en train de s'accroître et que, alors, ils y sont aussi pour quelque chose. Hein. Je crois qu'ils ont peut-être des efforts à faire en termes d'exemplarité. Mais c'est vrai que maintenant, l'opinion publique pèse de plus en plus sur leurs responsabilités et que cette opinion publique attend des chefs d'entreprise de montrer d'autres capacités en termes d'exemplarité, en termes de capacité de sortir du champ étroit du périmètre de l'entreprise. Est-ce que c'est pas ça qui crée des résistances tant que les chefs d'entreprise n'auront pas pris en main cette attente et ils n'auront pas répondu d'une façon collective, peut-être en sortant un code de déontologie qu'on attend toujours, il y aura une résistance du côté probablement des gouvernants comme de l'opinion publique pour faire évoluer certains symboles, car quelque part l'ISF est un symbole. Enfin...
Votre question appelle deux commentaires. Le premier, c'est que il ne faut pas attendre trop des chefs d'entreprise, ce n'est pas des surhommes. Donc la mission clé d'un chef d'entreprise, c'est de créer des richesses et de le faire de façon compétitive. Déjà, si on avait des entreprises avec des chefs d'entreprise qui créent des richesses de façon compétitive, c'est 99% de ce qu'on leur demande. Il faut évidemment, et c'est la deuxième remarque, qu'ils le fassent de façon honnête, en respectant non seulement la loi, mais aussi l'équité. Et donc, un code de déontologie serait bienvenu, mais j'ai malheureusement plus de 18 ans et j'ai fait une observation au cours de ma vie. Dans tous les groupes sociaux, vous avez la même proportion d'imbéciles et de malhonnêtes.
Je partage.
Parmi 100 polytechniciens et parmi 100 ouvriers, parmi 100 paysans, vous avez la même proportion de gens stupides et de gens malhonnêtes. Simplement, c'est pas le même type de stupidité, mais vous avez les mêmes comportements stupides dans chaque groupe. Simplement, quand c'est un ouvrier, on n'en parle pas. Quand c'est un chef d'entreprise, on en parle. Donc, il y a une exigence très forte
de l'opinion
concernant les chefs d'entreprise. Raison de plus, par exemple, pour dire, si on faisait ce que je disais tout à l'heure, si on supprime l'ISF et le bouclier fiscal, qu'on institue un impôt minimum à 15%, on pourrait dire, et dans le cadre de cette politique, on met en place une charte nationale qui fasse que les chefs d'entreprise respectent un certain nombre de principes. Et à ce moment-là, on explique aussi à la population les enjeux. Parce qu'il y a encore, malheureusement, ça peut surprendre, mais beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises.
Non, mais,
et que les gens ne savent pas que 80% de la richesse créée en France, c'est de la richesse marchande créée par les entreprises. Et que pour ce qui est de la richesse non marchande, c'est une évaluation indirecte de la richesse créée par les administrations publiques, mais le cœur de la création de richesse et de la création des emplois compétitifs en France, c'est par le secteur privé productif.
Absolument.
Et donc, si on n'a pas des entreprises en bonne santé et si on n'a pas un système à la fois financier, économique, politique et fiscal qui fasse en sorte que les gens aient envie de créer des richesses sur notre territoire, mais il n'y aura pas d'emploi.
Et là, on rejoint la problématique de la pédagogie économique. C'est vrai que les économistes, vous avez votre rôle, mais les pouvoirs publics aussi ont leur rôle. Et je pense qu'on a un déficit en la matière, en termes de pédagogie, oui, qui est absolument considérable.
Mais je reviens aux chefs d'entreprise. Vous savez, moi, j'ai été, il y a, je crois, de mémoire, de 90 à 94, j'étais membre de la commission économique du CNPF. Donc, vous voyez, ça fait, il y a 18 ans, j'y étais jusqu'il y a 14 ans. Donc, il y a une longue époque en arrière. Ouais. Et depuis, j'ai toujours rencontré beaucoup de chefs d'entreprise. Et il se trouve que j'ai eu une triple vie. J'ai vécu en Angleterre assez longtemps aux États-Unis, 6 ans aux États-Unis et en France. Bon. Quand je compare la France à l'Angleterre ou aux États-Unis, voire à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, on voit des chefs d'entreprise qui sont capables de créer des fondations pour la recherche économique, qui encouragent justement les débats économiques et la pédagogie qui va avec. En Italie, par exemple, ils sont extrêmement dynamiques. Si vous prenez la France, on n'a jamais pu, moi, depuis 12 ou 13 ans que j'ai vu des tentatives, on n'a jamais pu trouver 2 ou 3 millions d'euros dans le monde du business pour créer une fondation de recherche en économie. Alors que vous, aux États-Unis, vous en avez des dizaines et des dizaines dotées centaines de millions d'euros. Donc il y a une énorme responsabilité des chefs d'entreprise français de ce point de vue-là. Ils ne se prennent pas en charge de ce point de vue-là.
Ce genre peut-être de débat, d'entretien est susceptible de faire progresser la compréhension et la connaissance de ce sujet qui, je partage votre avis, est totalement majeur. Alors, donc on en était aux mesures. Donc la mesure clé, la plus importante et la plus précieuse qu'il faudrait prendre là, demain, ou plus tôt, c'est laquelle, selon vous?
S'il y avait 2-3 mesures à en prendre en urgence, en ayant la capacité d'expliquer à la population en quoi c'est effectivement massivement urgent, je pense vraiment qu'il faut agir sur l'âge de départ à la retraite. Tous les autres pays sont à 67 ans. On ne peut pas rester à 60 officiels, mais 58 effectifs. On est 10 ans de moins que les autres, c'est suicidaire. Donc il faudrait au moins repousser en urgence l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Mais en contrepartie, il faut que les gens puissent travailler jusque-là, ce qui suppose de réduire le coût du travail. Donc je pense qu'il faut basculer une part très significative des charges sociales sur des impôts à très large base et à très faible taux. Et donc ça, c'est la première série de mesures. La deuxième série de mesures, c'est une réforme de massive simplification du système fiscal, avec notamment la mise en place d'un impôt sur les sociétés fortement réduit sur le premier million d'euros de bénéfices mis en réserve. Et la troisième série de mesures, ça serait des mesures sur le fonctionnement du marché du travail. Par exemple, il y a une mesure simple qui pourrait produire des effets énormes. Vous avez toute une série de seuils à partir desquels il se passe beaucoup de choses dans le développement d'une entreprise. À partir de 10 employés de mémoire, on crée des délégués du personnel. À partir de 20, vous avez des obligations de ceci, de cela. Et à partir de 50, vous avez des obligations de créer un comité d'entreprise. Bien, alors que vous disposez de délégués du personnel depuis que l'entreprise a 10 salariés. Eh bien, sans changer aucune des autres obligations, en conservant des délégués d'entreprise, en conservant un comité d'hygiène, en conservant la participation, en conservant toutes les obligations qui existent, vous prendriez une seule mesure qui est de reculer la création du comité d'entreprise du seuil de 50 au seuil de 100. Je suis convaincu que vous créez en 18 mois 300 à 400 000 emplois du seul fait de cette mesure qui ne coûte rien au trésor public. D'accord. Donc pourquoi on ne prend pas ces mesures-là?
Tout à fait, mais parce qu'il y a des résistances du côté, on va dire, des instances représentatives.
Et mais même pas, puisque les syndicats ne sont pas présents dans les entreprises de cette taille. Donc on pourrait d'ailleurs négocier avec eux pour
culturel.
Leur dire... Oui, on pourrait dire, bah, écoutez, si on supprime cette obligation jusqu'à une taille de 100 employés, en contrepartie, on pourrait renforcer la représentation au niveau des branches, par exemple.
On espère que Xavier Bertrand écoutera cet entretien sur Canal Académie. De toute façon, on va lui faire passer la note en question. Okay. Alors, bon, on termine là-dessus. Écoutez, on a bien entendu survolé votre ouvrage, mais le but de la manœuvre, ce n'est pas de tout donner, parce que sinon les lecteurs ne l'apprendraient pas. Je rappelle donc votre livre qui est paru chez Bourin Éditeur. C'est un essai. La France est-elle en faillite? 15 propositions pour en sortir. Alors, vous dites dans vos conclusions, vous parlez de la société délibérative. C'est un néologisme de Christian Saint-Étienne.
Écoutez, oui, c'était par opposition à la société participative.
Voilà. J'ai cru comprendre.
L'idée, c'était qu'effectivement, si c'est pour participer et puis que les décisions sont prises avant, comme dans le fameux exemple de la société participative où après 3000 réunions participatives, on s'était rendu compte que les décisions avaient été prises avant, ou bien si c'est encore une fois faire de la participation, mais pour que les décisions soient prises ailleurs, ça ne va pas. Qui plus est, pour que les gens ne se sentent pas liés par les décisions qui sont prises. Donc moi, ce que je propose, c'est de mettre en place un vrai système de délibération, où les gens seraient effectivement appelés à délibérer. Mais une fois qu'une majorité a clairement décidé d'aller dans une direction, il faut que tout le monde suive et prenne sur lui-même la responsabilité d'aller dans une direction qui soit bonne pour l'ensemble du pays. Et donc, c'est ce que j'appelle la société fondée sur la délibération et donc délibérative.
D'accord. Voilà, ça nous donne, ça nous met en appétit. Je cite simplement quelques phrases de votre livre. Ce livre a montré, dites-vous en conclusion, que nous pouvions reprendre notre destin en main sans renoncer à nos engagements internationaux. L'intelligence stratégique, la volonté d'excellence, l'engagement de citoyens libres et responsables et la conception française de la liberté doivent fonder la société délibérative. Alors, je pose quand même une dernière question avant de conclure. On n'a pas parlé d'environnement international, bien entendu, parce qu'on n'est pas seul au monde, nous et le reste du monde, comme disait Mme Revel dans un de ses ouvrages. Alors, c'est un peu compliqué quand même, l'environnement.
Non, c'est au contraire, c'est parce que justement, toutes les propositions que je fais sont construites à partir d'une prise en compte de l'environnement. J'ai mené une vraie réflexion stratégique et non pas une réflexion politique. C'est-à-dire que je ne suis pas parti d'a priori politique, mais je suis parti d'une observation de ce qu'avaient pu faire tous les pays qui étaient proches de nous et qui sont nos concurrents. Et donc, je me suis calé sur ce qu'ils avaient fait et qui avait bien fonctionné pour proposer des solutions qui restent adaptées et compatibles avec la société et les valeurs françaises, mais qui puissent nous redonner le fameux point de croissance qui nous manque.
Bon, eh bien écoutez, c'est sur ce point d'optimisme que nous allons conclure. Christian Saint-Étienne, une nouvelle fois, merci. J'invite tous nos auditeurs de l'Institut de France à parcourir le livre que vous venez de faire paraître chez Bourin, « La France est-elle en faillite ?» 15 propositions pour en sortir, 200-250 pages pour 15 euros. Merci encore à vous, on était ravis de vous accueillir à Canal Academy.
Merci à vous et à Canal Academy.
Merci.
Thank you.